Oui, je crois que bon, un jour peut-être je n'écrirai pas, mais je sais que je lirai toujours à moins de ne plus pouvoir voir.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'écume des pages. Notre écume du jour va concerner L'Écharde, revue poétique lyonnaise créée par deux personnes que nous avons la chance aujourd'hui de convier dans notre émission, Alexandre Goutard et Louis Pécou. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Louis.
Bonjour Myriam, merci de nous inviter.
Alors, comme vous le savez peut-être déjà, nous avons déjà présenté L'Écharde au sein d'un de nos journaux de la culture et nous joindrons bien entendu le lien dans cette émission. Et aujourd'hui, nous avons donc la chance d'interroger ceux qui sont à la source du projet. Alors, qui est L'Écharde ? Et puisque vous êtes là, qui sont les personnes qui ont fondé cette revue ? Donc vous, dites-moi en plus sur vous, tout simplement.
Oui. Voilà. Originellement, L'Écharde s'est fondée autour d'un groupe d'amis. Pour dire les noms, essentiellement Alexandre Goutard, Quentin Maschio, Guillaume Drédémy et moi-même, Louis Pécou. Qui avions l'habitude d'énormément nous retrouver, que ce soit en soirée ou n'importe quand, nous écrivions chez nous, chambrés. Et nos forces étaient jusqu'alors, disons qu'on était en puissance, jusqu'à ce qu'on se rende compte, achevant chacun nos études, de lettres ou de philosophie, etc., qu'il était temps de plus ou moins de réunir ces forces et de les actualiser dans un travail commun. Ça a été L'Écharde. Ce qui a poussé un petit peu la création de la revue, c'est de constater simplement que nous avions de quoi faire génération entre nous par les simples faits d'être à la fois d'un même lieu, Lyon, d'une même situation géographique, préoccupés par les mêmes soucis, obsédés par les mêmes poètes. Et surtout, nous étions tous de la même tranche d'âge, nous sommes tous entre 90 et 93.
Et qui sont ces mêmes poètes, ces mêmes idées qui vous guident en fait tous, on va dire, votre groupe de poètes votre groupe de poètes et de poétesses
C'est peut-être plus un désir que des idées. J'aime bien penser que L'Écharde puisse être cet accident que rencontrent les hommes qui errent en un lieu où la philosophie, la politique et la religion ont échoué. Alors ça peut paraître un peu pompeux, mais je crois que c'est vraiment l'idée, la haute idée qu'on se fait de la poésie.
D'accord. Et pour parler de choses plus concrètes, comment va se présenter la revue globalement ?
On voulait, dans la bonne lignée, la bonne tradition des revues poétiques françaises, donner un objet. C'est quelque chose qu'on valorisait, le livre en soi, le livre papier. Alors, sans pour autant être trop conservateur, on s'est servi de l'informatique, on s'est servi des ordinateurs, mais pas comme un support qui était susceptible de changer essentiellement ce qu'est le poème et son intention. On est persuadé que, quand bien même on se servirait de l'informatique, ce serait simplement dans l'optique de diffuser le poème tel qu'il a toujours été. Donc, on est clairement sur une forme classique de papier.
Et vous êtes aujourd'hui combien autour de cette revue environ ?
Deux co-directeurs, Alexandre ici même et moi. On est en train d'installer un comité de lecture. On est quatre pour l'instant, avec Guillaume et Quentin, dont je parlais au début. Mais cela dit, beaucoup déjà de poètes, de chercheurs, même romanciers ont répondu à notre appel. Pour les premiers et deuxièmes numéros, on est déjà, à mon avis, une bonne douzaine, une petite dizaine, un truc comme ça.
Sur ce qui anime en profondeur l'envie de faire la revue, il me semble que tous les quatre qui étaient d'abord, dans les commencements de cette revue, on était assez étonnés face à deux sentiments. D'abord, on ressentait un profond désespoir face au monde, il faut bien le dire. Et d'un autre côté, on était étonnés face au fait que malgré cela, on prenait plaisir à vivre. C'est-à-dire que la vie continue de sourire, comme si elle savait quelque chose que nous ne savions pas. Et je crois que c'est vraiment ce sourire-là de la vie qui appelle notre écriture. Et je dis ça parce que ça renvoie à des poétiques vraiment essentielles à Lyon. Et alors parce qu'on nous a dit qu'on aurait pu s'agréger à des groupes préexistants plutôt
oui,
que de
vrai,
faire une revue.
En fait, la question que je me posais à chaque fois que je lisais vos poèmes, c'est la suivante. De quel mouvement littéraire êtes-vous les plus proches? De quel plutôt courant plutôt?
Alors, on s'est rendu compte qu'il y a, enfin, tout le monde s'en rend plus ou moins compte, que ce soit l'éducation nationale ou n'importe quel poète, ou même ceux qui lisent pas de la poésie, c'est que la France est complètement obsédée par le 19e siècle. Et nous-mêmes, on partage cette obsession, en tout cas pour les post-romantiques, les romantiques tardifs tels que Baudelaire et Rimbaud. Donc tout s'est joué déjà à partir de ces auteurs-là et de ce romantisme-là qui a sans cesse essayé de trouver de nouvelles voies par le néolyrisme, par le littérarisme. Nous, on a voulu assumer le côté lyrique romantique de la revue en voulant rejouer ce qui aurait pu se passer après Rimbaud, après Baudelaire, non pas dans la recherche de l'inconscient par le surréalisme, non pas dans la recherche spirituelle de Claudel, essayer de rejouer clairement comment on retire l'idée du romantisme.
Puis il y avait l'idée pour répondre à la question pourquoi on s'est pas approché d'autres groupes préexistants à Lyon, c'est parce qu'ils ne nous ont pas satisfaits. Il faut dire clairement, les petites structures qui existent à Lyon, elles sont pas nombreuses, elles existent, nous semblaient oublieuses de l'appel dont je parlais, l'appel qui donne envie d'écrire, et même, il me semblait même qu'elles camouflaient cet appel par le bruit du spectacle et par un jeu sur la dérision et le dérisoire. Et quand Louis fait référence au romantisme, nous, on n'est pas romantiques, mais disons que ce qu'on aimait chez ces poètes-là, c'est de prendre au sérieux l'énonciation avec une certaine gravité.
En fait, ce que j'ai compris de ce que vous dites, en fait, c'est vraiment traduire ce mouvement d'évidement en fait, du romantisme et d'être à la fois dans cette transition, en fait. J'ai l'impression que c'est
on ça. On n'est pas dans une avant-garde. On est dans la tentative, comment dire, de perpétuer une tradition tout en répondant aux désirs actuels du monde contemporain en poésie.
Bien entendu.
Alors, peut-être ce qui nous séduit dans le romantisme, c'est ce que disait Alexandre, c'est plutôt qu'une poésie de la dérision, qu'une poésie pour la poésie, nous, on a cette idée intime, très ancrée, qu'il y a un lien entre l'existence et la poésie, un lien entre la vie et la poésie, que l'un et l'autre nous sans cesse un rapport et change sans cesse l'un par l'autre.
Merci beaucoup.
J'aurais pu être un héros ou un train de bistrot, un banquier ou un fou. Il s'en est fallu de quoi que je sois toi. Tout se passe au millimètre et ce que l'on peut être dépend-il de nous ou d'une partie de l'auto jouée là-haut. Faut faire avec ce qu'on a. Je me contente de moi. J'aime la vie cette garce qui punit ses vainqueurs. Je la perdrai sans perdre la face, mais une écharpe au cœur.
Je vous remercie de nous avoir donné davantage de précisions sur la jeunesse de la revue. Maintenant, j'aimerais bien qu'on en évoque le contenu, qu'on découvre les belles épines de l'écharde et d'abord un poème. Lune.
Une lune du beau sexe passe l'œil dans la serrure. Avec ses allures de vierge coincée et frigide, un peu voyeuse ou veilleuse, d'ailleurs sœur très intime des voyantes. Elle se roule dessus, fait des tours de séduction dans un air triste et beau, mais ne livre jamais son derrière. Agaçante, pleine de superstition et de manières de grâce. C'est la nymphette des poètes, la pute des Français, elle tire la couette et les marées de son côté, disparaissant souvent avant le réveil. Chiante à mourir aussi, à râler qu'elle est un peu ronde, palote, cernée, qu'elle dort mal. C'est à cause de son divorce avec tout l'univers. Elle ne veut plus en parler. Elle ne parle jamais. On pressent cependant une promesse, un bout de fesse, une plage piétinée. Un jour, elle était chauve et semblait très malade. C'était un crâne d'oiseau, une relique pendue dans la chambre. Et c'est drôle, cette façon qu'elle a de fasciner, comme une très vieille petite dame qui fait l'enfant, ou bien l'inverse. On l'aime de loin, c'est l'aînée qui a pris ses distances avec la famille. Elle est à elle-même sa propre sœur jumelle, et c'est presque une inconnue maintenant. On ne reconnaît pas son visage. Je l'ai vue pêcher les fous avec ses aimants, ses appâts. La lune ne s'étonne jamais d'aucune métamorphose, on ne sait plus comment prendre ses cris de baleine, aucune raison de faire confiance à une pierre. Bon, je veux bien reconnaître chez elle une certaine prédisposition à l'éternité. Sa solitude diurne, sans doute.
Merci beaucoup pour cette lecture magnifique. Alors, quels sont les thèmes prédominants, selon vous, de votre revue? Parce qu'on a quelques éléments dans cette lecture, mais plus explicitement, quels seraient ces thèmes prédominants, le style de, qui prévaut, en fait, dans votre revue poétique?
Bon, ce sont les thèmes qui animent la poésie depuis toujours. Mais en fait, je crois pas que la poésie aujourd'hui puisse se rénover à partir de la question des thèmes. Ça a déjà été le cas au 19e, Baudelaire apporte la ville en poésie. Mais je suis pas sûr qu'à notre époque, ce soit là un enjeu essentiel de la poésie. Et pour parler de ce qu'on...
Alors c'est lequel d'enjeu ?
Ça se s'ouvrait plutôt sur la façon de figurer les...
C'est-à-dire ?
Les lieux communs. Comme Louis aime bien dire qu'il faut nettoyer les lieux communs, la lune.
Avec l'exemple de la lune, il y a l'idée que, enfin, c'est d'une banalité affligeante de retrouver les mots fleurs, lune, soleil dans un poème. Si on parle de thème, on va parler sans doute du thème des lieux communs, parce que il y a un enjeu sur le lieu commun, c'est-à-dire c'est quelque chose qui importe au plus haut point l'homme, le poète, mais il faut comme laver ces mots de toutes les représentations qui les ont salis, etc. Mmh. Il y a comme une manière, quand on dit soleil, quand un poète dit soleil, il y a la manière de vouloir démasquer, tuer ce qui, dans le nom de soleil, a tué le soleil réel.
D'accord. C'est-à-dire que, qu'en fait, c'est plus, comme vous le dites si bien, un travail de nettoyage, on va dire, des lieux communs, qui permettrait à ce moment-là de les renouveler pour les adapter en fait à notre société d'aujourd'hui, parce que la poésie, selon vous, serait, on va dire, plus beaucoup moins présente par exemple que la prose, c'est ça ou pas?
Tu veux répondre?
La poésie en vers est quand même très présente aujourd'hui, mais ça, c'est toujours l'idée de remotiver notre expérience avec le monde.
Oui.
Donc si vous voulez, si on reste sur la lune, moi j'aime bien, pour définir un peu comme la poésie aujourd'hui, il me semble que bon, quand on observe la lune, on a deux sentiments. À la fois, on est l'homme éternel face à l'éternelle lune. D'un autre côté, comme on est moderne, on n'est pas sans savoir que c'est jamais qu'un bout de terre qui tourne et que dans 20 ans, ce sera d'ailleurs une poubelle pour les stations spatiales. Et du coup, face à ça, il y a deux tendances. Soit ceux qui oublient que ça va être une poubelle, bientôt, stellaire, et donc qui se concentrent sur le rapport éternel à cette lune, et ceux qui, au contraire, s'engouffrent dans cette espèce de modernité, de la déception, du déceptif, où ce n'est qu'une lune. Et je crois que nous, on essaie de faire les deux, c'est-à-dire de penser ce rapport ensemble.
D'accord, merci beaucoup. Et justement, dans cette réflexion des rapports poétiques, est-ce que vous diriez que chacun de vous, chacun des 12... poètes qui sont au sein de votre revue ont un style bien singulier, bien particulier dans dans ce travail de réflexion.
Oui.
Est-ce que vous en avez des exemples?
Ouais, on peut parler un petit peu du style singulier de chacun, parce que c'est vrai qu'elle est assez polymorphe comme revue, malgré cette unité dont on parlait tout à l'heure. Et même au-delà du style, c'est-à-dire dans une sorte d'intentionnalité, il se passe des choses diverses. Par exemple, il y a une bonne place consacrée dans notre revue à un feuilleton. Un feuilleton qui est tiré d'un roman épistolaire d'un de nos amis, Quentin Maschio, qui s'appelle Lucinde. Donc, qui a joué un certain rôle dans la revue, car c'est ce qui va revenir. Lucinde, c'est ce qui va revenir sans cesse en forme de lettres, de feuilletons à travers ce semestriel. Ça traite de l'histoire de quelqu'un qui traîne une grosse valise pleine de papiers depuis très longtemps et qui ne saurait, comment dire, la mettre au monde. un jour, ce nom Lucinde va complètement débloquer son écriture et par l'adresse, par le fait de s'adresser et de commencer à écrire des lettres, il va lentement pouvoir vider sa valise, cette valise qui traînait derrière lui d'une Russie ancienne qu'il avait vécue et qu'il habitait encore. Donc voilà pour ce qui est de Lucinde, qui va avoir une place toute particulière. Pour les autres styles, je peux laisser Alexandre en parler.
Les échardiens sont nombreux, enfin il y a beaucoup de styles très différents. Et pour dire ça comme ça, disons qu'il y a, il y aura, j'espère, beaucoup d'échardiens et d'échardiennes, mais il n'y a pas d'échardisme. Parce que l'idée, c'est quand même que l'écharde, disons, interrompe le système, enfin, c'est irruption. Par conséquent, c'est qu'on a du mal à trouver, disons, à quelque chose qui nous unit, si ce n'est des lectures en commun. Nous sommes beaucoup influencés par à la fois la revue Maurice Tourous et Yves Bonnefoy. Enfin, c'est vraiment deux tendances que on essaie tous de concilier. Par exemple, Cécile Guivarch a investi le champ lyrique en parlant de l'autobiographie. Il y a un mélange entre l'autobiographie et le lyrisme. Et c'est intéressant parce que du coup, on a l'impression que l'intensification de la vie, qui a été le but de la poésie pendant très longtemps, au fond, cette fois-ci, passe par l'intensification du rapport à l'autre. Et c'est véritablement là quelque chose qui nous unit un peu tous pour parler comme ça, en réduisant un petit peu Rimbaud, injustement, on pourrait dire qu'il s'agit plus d'apprendre à aimer plutôt que d'inventer l'amour. Et je crois vraiment que c'est ce qui nous lie beaucoup, voilà. En fait, c'est l'éthique, une espèce d'esthétique, comme dit Paul Audi, est-éthique. C'est un concept que nous aimons beaucoup.
D'accord. Donc en fait, votre revue ne fait pas système, mais permet de vous rassembler, en fait, autour de cette ambition commune, de ce désir commun que vous aviez évoqué au tout début. Et donc, continuons à lire de la poésie et on va lire un deuxième poème avec Alexandre.
Dans l'affectivité de ta nuit, près du bassin où les truites semblaient reconnaître nos mains. Comme affect roncé à un morceau de la cuisse de la mer. Autre façon de se donner, le droit de mentir. Dans l'arène du silence, l'odeur de la terre, les mots que j'abdique. Ô toi, qui laisses parfois un peu de sang sur mes draps, la chaise où nous prenons notre petit déjeuner, la neige où parfois nous nous réveillons. Moi aussi j'ai remarqué que nous ne faisions plus l'amour en pleine lumière. Moi aussi j'ai remarqué que nous n'y arrivons plus. Mais quel mot contre la honte, là où il semble que viennent boire nos trombes, comme un bruissement l'effraie. Celui que j'aurais pu être. C'est ce qui doit cesser, pour ce corps couvre ta bouche, qu'il respire, et comme j'y puise. L'acharnement, la traçabilité de ma viande, je, pronom saignant que la nuit vient la paix, décharge sauvage où cette pierre que Dieu retire du fleuve, cette pierre dans ta main, et ta main dans la lumière. Mais non, nous ne sommes pas de ces gens qu'un livre peut sauver, nous valons mieux. Notre mal est trop profond. Nous ne pouvons rien faire que cela, lâcher des pierres, attendre, voir comme ça sonne creux, la profondeur. Non, nous ne sommes pas de ces gens qu'un livre peut sauver. Tu as raison. Jadis, leurs poèmes étaient si beaux qu'ils s'en faisaient presque rougir la mort, et celle-ci, blessée, acceptait d'accompagner la vie. Mais nous, aujourd'hui, Jeanne, il faudra bientôt faire le mort longtemps, assez longtemps pour échapper au pire. Mais je te connais. Ce sera trop dur pour toi. Je sais que ton corps n'en aura pas la patience.
Donc nous avons vu le côté purement littéraire de votre revue, mais la spécificité de votre revue réside dans une certaine poésie picturale. J'aimerais bien avoir quelques détails sur les passages et échanges de l'écharde littéraire à l'écharde picturale. Et ainsi, pour vous, avant toute chose, j'aimerais bien avoir un petit avis théorique. Quelle place a l'image dans la poésie, selon vous ?
Alors, c'est tout cela est vrai, mais disons que pour être plus exact, on apporte comme particularité des images. C'est pas une spécificité de la revue. On va simplement s'ouvrir à d'autres arts, c'est-à-dire à essayer d'instaurer un dialogue entre la poésie, le dessin, la poésie et la peinture, par exemple. Ce dialogue est un travail qu'on reconnaissait justement chez Bonnefoy et qui nous semble bon et salvateur de perpétuer.
Tu parles de Bonnefoy et c'est quand même ça aussi qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'il y a une antique solidarité entre la peinture et la poésie. Platon détestait les deux, enfin, on se souvient l'image et le poète qui voulait chasser. Ça se retrouvera dans tout le long de l'histoire, par exemple chez Baudelaire et Bonnefoy. Et c'est pas une spécificité, mais c'est quand même important en effet de réaccorder de l'importance à ça, parce qu'en vérité, on ne peut pas repenser la poésie sans repenser l'image, et on ne peut pas repenser la poésie sans son rapport à la peinture. Et c'est vraiment ce qu'apportent Baudelaire et Yves Bonnefoy, et dans la lignée desquelles nous nous situons.
Effectivement, en fait, je pense que c'est assez intéressant d'apporter, si ce n'est cette spécificité, mais cette particularité, parce qu'il est vrai que le rapport à la figure et au figural est assez important quand même en poésie, et donc, en fait, il y a vraiment une mise en avant, en fait, de cet aspect-là, de la poésie. Oui. Dans votre revue, c'est pas forcément que... Parce que c'est pas forcément que soit une... spécificité d'ajouter de l'image à votre revue, mais ça ressort tout de même quand même pas mal.
Ça nous préoccupe et même la manière dont on a amené ces images, par exemple Héloïse Tual, dont on présentera des dessins poèmes dans le deuxième numéro de la revue, ce qui nous intéressait particulièrement dans son travail, c'est le processus, c'est-à-dire que elle a plusieurs carnets, elle en a trois, elle commence avec un carnet sur lequel elle pratiquera une sorte d'écriture automatique dès le matin en se levant ou alors avant d'aller se coucher. Un deuxième carnet sera consacré à retirer les meilleures idées de cette écriture automatique et de commencer à esquisser certains dessins qui permettront, dans un troisième carnet, d'installer une mise en scène pour le théâtre. Donc, je disais qu'on s'intéressait à un dialogue entre la poésie et les arts en général, donc c'est vrai pour l'art pictural, mais dans le cas d'Héloïse, on va passer par les trois, c'est-à-dire on commence par la poésie pour aller se diriger vers le dessin, pour finir dans le théâtre.
Il y a vraiment un travail de construction qui est assez intéressant, je trouve, dans le travail que vous décrivez là, notamment d'Héloïse Tual. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui, dans votre cercle, qui font des poèmes-dessins ?
Non, pas de poèmes-dessins. Mais il y a une jeune peintre qui s'appelle Elisaza qui, en fait, va nous offrir des dessins au fusain, à la craie grasse ou à l'encre, qui sont, on pourrait dire, des études à partir d'une photo de tireur d'épines qu'on pourra retrouver sur la page de Facebook. Une très belle photo d'un tireur d'épines qui date du Moyen-Âge. Et alors, elle fait les études comme ça, elle en a fait 5 ou 6, qui vont rythmer la revue et qui en fait donnent des effets comme si c'était des échographies, c'est-à-dire qui à la fois reprennent dans une graphie différente, le désir qu'on essayait d'exprimer avec cette idée d'écharde, et qui en même temps rappellent ce qu'il y a dans le ventre du texte. Et c'est vraiment pas mal, quoi.
C'est vraiment intéressant. Justement, on n'en a pas parlé depuis le début de l'émission, et on l'avait évoqué un peu dans le Journal de la Culture l'autre fois. Mais c'est vrai que les chartes, c'est quand même un nom de revue qui est interloque. Et je me demandais si justement il y avait un rapport avec cet aspect, on va dire... Je ne sais pas si c'est correct de dire ça, mais de maïotique pratiquement. Est-ce que c'est un rapport, on va dire, de percée, on va dire.
Il y a plus de la conversion.
La poche des eaux.
Oui, c'est sûr. Il y a plus de la conversion au sens de Kierkegaard, mais alors une conversion dans le poétique plus que de la maïotique, disons.
Oui. Ouais. Bah, pour s'il faut parler du titre Les Chardes. Il y a une ambivalence de ce titre, c'est qu'à la fois il évoquera la conversion et la révélation chez Kierkegaard, Et c'est la révélation de Saint-Paul. Mais d'autre part, toutes ces esquisses, ces dessins que fait Lili Zaza à partir du tireur d'épines, le tireur d'épines, qui, je vous invite à aller le voir, ce sont des sculptures, plusieurs, qui ont été faites sur le même thème, d'un vieux mythe dionysiaque, donc, qui vient compenser ce qui apparemment était suggéré une revue chrétienne, sera compensé par le travail sur une image plus antique et sur d'autres suggestions. On interroge ça par la poésie, on interroge les modes de révélation de la poésie.
Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant cette émission. On a commencé à saisir l'essence de votre poésie. Et j'espère qu'on va bientôt lire sur papier vos revues. J'espère aussi que vous aurez encore plus de poètes qui vont vous rejoindre dans votre aventure. Et j'aimerais bien avoir un petit mot pour conclure de votre part, où on peut vous retrouver, ou bien quelque chose qui peut résumer l'approche de votre revue.
Alors, merci beaucoup. Vous pouvez nous retrouver. On a créé une page Facebook qui nous servait de lampe de rancement vers le monde. Encore une fois, merci de nous avoir invités. On aimerait pouvoir sortir la revue très vite. Et toutes les infos seront sur Internet. Vous aurez le lien vers notre site pour commander la revue aussi. On aura les informations des librairies, des bibliothèques dans lesquelles trouver la revue.
Merci beaucoup. Au revoir.
L'enfer de ma marelle.